Bulles et reportages, principe actif.
Bulles et reportages.
Bonjour à toutes et tous. Une fois n'est pas coutume, votre radio principe actif assistait ce lundi 15 juin à la conférence de presse organisée par l'ALM Basket Évreux Eure, qui voulait partager des informations auprès de la presse locale, était présent. Philippe Guinchard pour leur info La Dépêche à la question, Alexandre Sanson pour Paris Normandie à la question, et moi-même face à Marc Namura qui était le coach de la LM Basket, vous allez en savoir un petit peu plus dans le reportage, ainsi qu'en face de la presse Jean-Pascal Ruiz, le président actuel du club de basket, accompagné de Karl Ona Embo et de Christelle Onganda. Vous allez découvrir la nature des échanges, seront abordés le nouvel organigramme du club et de son staff, mais aussi les mouvements à venir, ceux déjà opérés, les raisons de certains départs, les discussions qui ont pu être mises en place ou tenues pour essayer de conserver des joueurs, même si elles n'ont pas abouti. Bref, vous allez découvrir plein de petits aspects liés à la fin de saison de la LM Basket sur la saison 2025-2026, mais surtout les nouveaux contours de la saison à venir 2026-2027. Le tout en présence de Simon, qui a fait une captation de qualité. Voilà, bonne écoute, conférence de presse de la LM Basket, ce lundi 15 juin de l'an 2026.
Même à l'arrache, mais au moins c'était...
Bon, largement.
Voilà.
Bon, je laisse Marc répondre
côté sportif. Effectivement, c'est 18e sur 20. Il y a quand même une stat à retenir, donc 11 victoires, 27 défaites. On a utilisé 9 contrats pro du 1er août jusqu'au 15 janvier. Et ensuite, on a eu la chance grâce, et on les remercie à Paris Basket, d'avoir eu le prêt d'Iliane Mongala, qui nous a permis d'avoir un 10e contrat pro. Donc voilà, on a pu puiser sur ce vivier-là de ces 10 joueurs quand les autres équipes qui finissent en dessous de nous, juste au-dessus de nous, ont utilisé entre 14 et 16. 16 étant le quota maximum. Donc voilà un petit peu sur cette saison. On gagne 2 derbies sur les 4. L'année prochaine, on en aura 2 de plus avec Le Havre qui arrive en Elite 2. On a aussi été en capacité de battre Nantes et Poitiers qui sont demi-finalistes, avec Poitiers finaliste de ce championnat-là et qui est en bonne posture pour remporter le championnat également, enfin pour remporter les playoffs, pardon. Voilà un petit peu les stats. On a utilisé 3 joueurs étrangers, dont 2 francophones, donc un joueur canadien, un joueur luxembourgeois, Ben qui parlait français, et un joueur né en France mais avec un statut de joueur étranger, Ivan Ouedraogo. On avait jusqu'au 15 janvier la deuxième équipe la plus jeune du championnat, derrière Vichy, et on est passé devant Vichy avec l'arrivée d'Eliane, puisque 18 ans, on est en 2007. Voilà un petit peu par rapport au bilan. Une douzaine de défaites de moins de 10 points également. Donc voilà, un peu de frustration, parce que je pense qu'on aurait pu faire mieux. On a quelques moments bascule dans la saison, et notamment le match qu'on remporte largement à Aix, qui derrière nous fait beaucoup de mal, puisqu'on n'arrive plus trop à gagner. 3 jours après, on se souvient d'avoir fait un match laborieux contre l'Aza où on fait 30 sur 53 au lancer franc. On finit d'ailleurs dernière équipe sur le pourcentage au lancer. Voilà un petit peu le bilan, donc si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas.
Moi, je vais juste revenir sur le groupe de la saison passée, sportif. La saison a été compliquée pour nous, très compliquée, bien évidemment, sportivement, puisqu'on a eu du mal à se maintenir. On aurait pu le faire plus tôt. Mais quelque chose qu'il faut retenir sur la saison passée, c'est un groupe qui n'a jamais explosé. Contrairement à beaucoup de clubs en France, où dès que les défaites se suivent, les groupes ont tendance à exploser. Ça n'a pas été notre cas. On a trouvé un groupe travailleur toute la saison. Je l'ai assez répété devant nos partenaires, devant nos actionnaires toute la saison dernière. C'est un vrai groupe qui a travaillé avec bien évidemment des petits accrochages, ce qui fait du bien dans un groupe. C'est toujours bénéfique de se dire les choses. Mais un groupe qui n'a jamais explosé, qui a toujours travaillé, beaucoup travaillé. Donc, et au niveau du recrutement et au niveau de la saison, je dirais qu'elle est positive à ce niveau-là. Pour moi, c'est très important. Je pense que pour il y a le sportif, certes, mais il y a toute l'ambiance et le vivre ensemble qui est important pour moi.
Humainement, c'est un groupe qui s'est malgré tout bien entendu.
C'est un groupe qui a fait pas mal de choses ensemble sans qu'on soit mêlé à leur soirée ou à leur le mot va m'échapper, à leur rencontre. Il aurait même arrivé de nous inviter, nous, le groupe sportif nous a invités à partager avec eux. Donc voilà, je pense que c'était humainement un très beau groupe en tout cas. Voilà.
Et justement, vous avez des regrets de ne pas conserver plus de joueurs du joueur du groupe-là ?
C'est la parfaite transition.
On a beaucoup de regrets de ne pas pouvoir conserver quelques-uns de ces joueurs, ouais. Mais comme vous le savez, je ne suis pas un pro du basket. Le marché JFL est très compliqué. Ils partent sous d'autres cieux, certains pour les finances, d'autres pour une carrière sportive différente, bien évidemment. On sait qu'Evreux est un tremplin. À partir de là, voilà. Nous sommes un tremplin pour beaucoup de joueurs. Donc à partir de là, on sait ce qu'on fait, et après à eux de.
Mais dans ce qu'on s'était dit aussi, vous avez des buy-out qui sont très 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 peu élevés. En fait, et vous perdez des joueurs que vous signez sur 2 ans pour essayer de construire une équipe pour l'année suivante, d'avoir une base. Et en fait, vous les perdez quand même parce que les clubs rachètent facilement les contrats qui sont en cours. Bah, c'est pas une façon de. Dans lequel il faudrait évoluer un peu.
Alors, je vais être clair avec vous, encore une fois, comme je sais le faire. Pour les amener à nous, bien évidemment, il faut qu'on leur propose des contrats souvent de 2 ans, avec un buy-out faible, pour leur permettre de rebondir. C'est la seule solution. C'est la seule solution qu'on ait aujourd'hui, en rapport avec nos finances, tout simplement. Il y a un côté économique à ça. C'est la seule solution qu'on ait pour pouvoir négocier leurs arrivées. Ils savent à partir de là qu'ils ont une porte de sortie assez facile avec des buy-out très faibles, effectivement, mais on n'a pas le choix. Pour l'instant, on n'a pas le choix.
Et le choix pourrait peut-être être différent, c'est-à-dire de les confirmer peut-être plus tôt dans la saison que d'attendre la fin de saison ou pas au moment où ça commence à s'agiter. Non, il y avait des joueurs, par exemple, comme, je pense à un joueur comme Dorian qui était intéressant, qui a fait une belle saison, qui est du club. Rentrer en contact plutôt avec lui pour éviter justement qu'il parte.
Bon, on a fait une proposition très tôt à Dorian, ouais. C'est le premier à qui on a fait une proposition bien avant la fin du championnat.
Ouais.
Elle a été rejetée à 2 reprises par l'agent qui avait déjà des plans en tête. Il faut aussi avoir aussi tous les tenants, c'est-à-dire que Dorian, quand il signe chez nous 3 ans sur son premier contrat pro, il change d'agent. En changeant d'agent, le contrat de 3 ans se met en place avec les sommes, et je te rejoins, il y a des buy-out qui sont assez faibles. Mais c'était une volonté de l'agent et du joueur de ne pas être, effectivement, comme l'a dit Jean-Pascal, pas être bloqué. Et Dorian, au bout d'un an, rechange d'agent. Donc sur sa deuxième contrat pro, il repasse avec son ancien agent qui, lui, n'a pas vraiment d'intérêt économique à le laisser ici, puisque la commission, elle est touchée par l'agent qui a fait le contrat. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles il a rejeté la proposition en allant à Aix-Maurienne, qui, au niveau de l'argent, n'est pas très loin de ce qu'on avait proposé.
Il n'y a pas une énorme différence entre.
Il n'y a pas une énorme différence. Il y a quelques milliers d'euros, mais c'est pas. T'as pas 10 000 euros d'écart. Quoi.
Okay. Mais c'est justement, c'est encore pire, parce qu'il n'y a ni l'argent, ni l'envergure d'un club qui est. Enfin, c'est un club.
Oui, mais après, je pense que, comme je t'ai dit, l'agent n'avait pas vocation à vouloir le laisser ici, et puis je pense qu'aussi Dorian a envie de voir autre chose.
C'est peut-être
autre chose, ouais. Il a commencé ici en école de basket, fait plus de presque 20 ans qu'il était licencié ici. Je pense qu'il avait aussi envie d'aller voir ailleurs.
Donc à l'heure actuelle, on a deux joueurs sous contrat, enfin deux joueurs de l'ancien sous contrat, plus vous avez officialisé le petit Tourangeau ?
Pas encore.
Pas encore.
Pas encore, mais il est en train de finaliser avec l'agent, il reste quelques petits détails, on attendait un point plutôt financier. Pour que vous ayez l'information totale, on a aussi fait deux offres à Anthony Da Silva qui ont été rejetées. On aurait voulu le garder. Malheureusement, il n'a pas voulu prolonger. Bon, après, on est OK avec ça. Et je pense qu'on a rempli nos deux années de contrat avec lui sur les engagements sportifs. Et il a rempli aussi largement sa part du contrat. Mais lui et Dorian étaient les deux qu'on voulait prolonger en priorité. Ben Kovac était aussi une priorité. On avait traité très tôt avec l'agent. Moi, je l'avais eu très tôt au mois de décembre, mais Ben ne voulait pas prolonger, puisqu'il aspirait à un plus gros projet sportif, voire même il voulait essayer de tenter le marché de la première division en France. Donc voilà, on n'a pas pu poursuivre. Tous les autres sont en fin de contrat, notamment Alexis Tang, Yvan. Maxime Carène, ça s'est fait aussi très tôt avec Champagne. On a aussi fait une proposition, on n'a pas pu s'aligner sur Champagne, on lui a fait une promesse d'avoir un fort salaire avec un fort rôle, mais finalement voilà, il a préféré décliner et aller à Champagne. Donc il reste sous contrat Maxime Gallin et Biarry Massila.
Voilà. Et ça ne bougera pas.
Ils sont sous contrat en tout cas.
Okay. Donc,
jusqu'à preuve du contraire, non, ça ne bouge pas.
Est-ce que la volonté de garder le petit Ilian
On est en discussion. Louis a déjà fait des avances à Paris Basket. Aujourd'hui, Paris Basket est en course pour le titre de Betclic. Et voilà, on a évoqué et on a envie de continuer avec Ilian. Donc maintenant, c'est de la négo entre l'agent et Paris Basket.
Pour une possible signature ou une forme de prêt comme,
bah, c'est ça, en fait, il y a encore 2 ans de contrat avec Paris. Est-ce que Paris le garde? Est-ce que Paris le prête? Est-ce que Paris coupe son contrat et Ilian se retrouve libre sur le marché? Tout ça, c'est des questions auxquelles je n'ai pas encore vraiment beaucoup de réponses pour l'instant, mais c'est en train de se mettre en place.
Et lui, il a la volonté de
rester.
Lui a la volonté de rester.
Pour faire une saison pleine en Pro B, justement, pour après partir sur d'autres horizons un peu plus élevés, forcément. Donc,
Et vous n'avez pas l'impression d'être en retard au niveau du recrutement?
Absolument pas.
Non.
Absolument pas. La preuve en est.
Oui, parce que
regardez,
ça a l'air d'avoir beaucoup plus bougé dans l'organisation. À quel moment on en parle?
Là, donc, si j'ai bien compris, vous prenez un assistant coach joueur en même temps. Donc,
ça où? Contrat double. Tu vas jouer. Contrat.
Non, je ne suis pas coach volant, moi.
Voilà, on est en train de dire hein, que. On dit Mbo ?
Oui.
On dit comment ?
On a Mbo.
On a
très bien dit.
Ben voilà, dans l'organisation de la saison prochaine, les choses sont maintenant actées, tout actées. Marc Namura ne sera plus le coach élite 2, mais le manager général du club. Christelle sera la coach des espoirs du centre de formation. Dinis, que vous connaissez, sera le coach principal en élite 2 et Karl sera son assistant sur la saison prochaine.
Le contrat de combien pour Dinis ?
2 ans.
Et Karl, pareil ? 2 ans ?
Oui.
2 ans.
Tout le monde est aligné, ouais. Christelle, 2 ans. Tout le monde
est Christelle aussi, 2 ans, ouais.
Et
GM, 2 ans aussi.
Ad vitam aeternam.
Ouais. C'est différent pour cette partie-là.
C'est moins important. C'est un rôle que tu as accepté avec plaisir, GM. Est-ce que le fait de plus coacher pour l'instant n'a pas été difficile comme décision à prendre?
Non, ça n'a pas été une décision difficile à partir du moment où, avec Jean-Pascal, nous, les choses elles sont très claires. On échange depuis bien avant sa prise de fonction, on avait déjà commencé à échanger. Je me souviens qu'on avait longuement échangé aussi suite à la victoire à Fos l'an dernier. Donc nous, les choses ont toujours été claires. Je pense qu'on a besoin aussi de continuer à avancer, à se structurer dans le club. C'est important, très important. Donc c'est bien sûr quelque chose que j'accepte avec plaisir dans cette nouvelle mission pour moi. Ouais, bien sûr.
Et du coup, avec Diniz, naturellement, il a accepté cette idée ou elle est venue
Oui, oui, ça s'est fait plutôt naturellement. Il a accepté plutôt avec beaucoup d'envie. Et encore une fois, c'est des choses qu'on avait un petit peu évoquées
tout au long de l'année.
Régulièrement. Depuis 2 ans, on fonctionne ensemble. On connaît Karl parce que Karl a fait la préparation avec nous l'an dernier. Pendant 2 mois, il a fait la route tous les jours de Caen à Évreux. Ça a toujours été présent, ça a toujours été quasiment le premier entraînement. Et voilà, il nous avait aidé grandement pour la préparation, participer à quelques matchs amicaux. Et puis moi, Christelle, que je connais aussi, qui a un gros réseau. Et voilà, je pense que Christelle, on le dit pas aussi, mais elle aura aussi un rôle sur les pros en tant que deuxième assistante. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin vraiment de se staffer, on a besoin d'avoir des ressources fortes, d'avoir du monde pour faire le trait d'union entre les pros et les espoirs. On a Dorian qui est sorti dernièrement, il y avait eu Kevin Lavieille qui était sorti il y a quelques années. Et l'objectif, c'est aussi voilà, d'avoir du bien entre le centre et les pros. Si on peut choper un jeune avec un contrat pro, où aujourd'hui, nous, on aimerait mettre en avant Aaron Kozani. Financièrement, c'est quand même plus intéressant pour nous. Et puis, ça a aussi une visibilité pour le club de l'ALM, qui a quand même vécu des années fastes dans la formation sur la fin des années 90. Donc, nous, on aimerait aussi retrouver ça. C'est important de remettre le centre de formation sur le devant de la scène.
Aaron, vous êtes quoi ça reste
Aaron. Alors Aaron, c'est normalement il n'y a pas de sujet, il doit rester chez nous, sauf que bon, je sais que les agents, ils essayent de le faire bouger aussi. On a eu un appel de Strasbourg là dernièrement. Et aujourd'hui, il est chez nous.
Bah, Bruno et Mimi, vous n'avez pas essayé de le conserver
Non. C'est pas des raisons liées au basket.
C'est extra-sportif.
D'accord. Plus des raisons extra-sportives dont je préférerais pas les évoquer aujourd'hui. Bruno a fait ses années de stagiaire et voilà, ça, c'est pas de problème sur le plan du basket, mais d'un point de vue extra-sportif, ça a été assez compliqué à gérer pour nous. Donc, on ne souhaite pas poursuivre.
Du coup, la DNCG. C'est tout frais, c'est ça ?
C'est tout frais de mercredi dernier. La DNCG a bien compris le changement de gestion financière du club, avec des exigences un peu plus poussées. Donc voilà, nous avons fait beaucoup d'économies dû au travail de tous au sein du club, du directoire, mais pas que, du staff administratif qui est derrière vous aussi, l'ensemble, voilà, on a tous bossé pour trouver des petites économies qui paraissaient parfois très minimes, mais tout ça mis bout à bout, la DNCG nous a félicités ouvertement sur la gestion, cette partie de gestion en tout cas. Bon, après rien n'est gagné, hein. La DNCG, c'est voilà, aujourd'hui on n'a pas encore bouclé la saison, il faudra clôturer au 30 juin, donc voilà, on a encore beaucoup de partenariats à aller chercher, on a des partenaires, la situation économique fait que c'est compliqué, donc entre les engagements pris et la réalité, il y a parfois des petites nuances financières, donc rien n'est bouclé, rien n'est fait, mais en tout cas la DNCG a plutôt été a vu un côté favorable à notre gestion financière cette année en tout cas.
Ça voudrait dire que sur l'enveloppe qui était freinée l'an passé, si tout se passe bien d'ici fin juin, elle serait un peu plus conséquente ou ce serait toujours, il y a toujours ce seuil de 500 000, je crois,
pas dans l'immédiat.
Sur la masse.
Pas okay. Dans l'immédiat. Dans l'immédiat, on serait capable de partir avec 515 000. Okay. Si nous clôturons correctement 515 000, okay. Avec éventuellement la possibilité, très rapidement, si on leur prouve encore une fois qu'on fait et qu'on sait faire, l'opportunité d'augmenter un peu la masse salariale.
En cours.
Okay. Dès le début de saison, si tout est aligné.
Oui, donc encore
limite, d'accord. Bien sûr. On le savait financièrement, en une année, on savait qu'on pourrait pas équilibrer les comptes. Globalement, on sait bien que voilà, la trésorerie, c'est compliqué. Enfin, il faut remettre en situation les problèmes financiers du club. Hein. On a perdu plus de 300 000 euros par an pendant plus de 3 ans. Donc j'ai envie de vous dire, cette saison, puisqu'on se maintient sportivement, si on arrive à équilibrer nos comptes auprès de la DNCG, je pense qu'on aura fait une belle saison. Il faut remettre, faut mettre l'église au milieu du village, hein. C'est une vérité. On sait que la saison prochaine sera compliquée aussi. On le sait, hein, c'est pas... Financièrement, de la même manière, on va encore faire. On ne fera pas plus d'économies. Ça, c'est une certitude. Pour la bonne et simple raison, c'est que cette année, on a amputé le confort du staff sportif. Et que je pense qu'on ne peut pas. On s'est déplacé dans des conditions parfois très.
Pittoresque.
Pittoresque, c'est pas le mot, mais très singulière. Des déplacements avec des navettes ou ce genre de choses qui voilà c'est pas l'idée d'un club professionnel avec une structure professionnelle. Maintenant on l'a fait cette année, on savait qu'il fallait le faire, donc on fera quelques économies encore, mais qui serviront uniquement au confort du sportif.
Justement, pour rebondir sur ce que disait Jean-Pascal, c'est important aussi pour nous, comme je l'ai dit en propos liminaire sur l'utilisation de 9 puis 10 joueurs professionnels, d'avoir aussi monté aussi notre budget si on a des ajustements en cours, apporter un joueur qui soit complémentaire pour l'équipe si on a des besoins, couper aussi un mec en cours de route. On aurait pu le faire cette année, on l'a évoqué ensemble il y a quelques semaines, mais c'est aussi important d'avoir ce type de levier pour être le plus performant possible, puisqu'on est dans l'exigence du milieu professionnel. Cette année, on n'a pas pu le faire.
Justement, là, les nouvelles prérogatives de la Ligue, là, sur ces 2 US maintenant, c'est ça?
Oui.
Avec 3 bossman. Est-ce que pour vous...
Tu fais 4 bossman ou 4 Cotonou, mais sinon tu as droit à 2 US et après c'est 2 Cotonou ou 2 bossman.
Merci. Est-ce que, d'ailleurs, toi, j'aimerais bien avoir ton avis et aussi celui de Karl, est-ce que c'est un rétropédalage de la part de la Ligue? Est-ce que c'est une vérité que, comme le marché du GFL, il devenait compliqué alors qu'ils ont fait ça pour cela, devenait insaisissable financièrement? Ou est-ce que c'est plutôt une bonne chose?
Pour moi, c'est plutôt une bonne chose. Quand tu vois la complexité du marché depuis 2-3 ans, où tous les clubs, hein, pas que nous, hein, nous c'est assez simple, une fois qu'on a fait le recrutement l'été, le recrutement il est quasiment terminé, sauf si c'est pour trouver un pigiste. Je tiens quand même aussi à souligner, on n'en a pas parlé, le travail de Colin Godin-Thomas qui a fait un énorme travail depuis 2 ans, et c'est 2 pigistes sur 2 saisons, ce qui est plutôt très 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 bien. Mais le marché est trop difficile, donc s'ouvrir la porte du marché américain, ça donne quand même une bouffée d'air, je trouve, au club d'Elite 2. Hein. T'as plus de choix.
Karl, vous avez le même avis, vous, en tant qu'ancien joueur et une nouvelle assistant de l'équipe? Est-ce qu'ils avaient fait ça tout de même pour mettre en avant nos jeunes viviers, ouais, et qu'on les mette en avant, qu'on leur donne des places conséquentes?
Dans ces cas-là, tu peux une place d'étranger.
Okay.
Tu passes à 3 ou même à 2 étrangers, comme le fait la National 1.
Voilà.
Et là, tu peux vraiment exposer tes jeunes français. Mais mettre 2 Américains, ça n'empêche pas tous les jeunes de partir en NCAA.
Bien sûr.
Ça n'empêche pas la fuite de nos talents. Ça, c'est encore une réflexion que doit avoir la Ligue et nos dirigeants. C'est des choses qui nous impactent, nous, mais dont on ne peut pas vraiment influer.
Donc c'est quoi l'année prochaine exactement? C'est 4 étrangers en tout?
Oui, ça reste 4 étrangers.
Mais...
Sauf qu'il n'y avait toujours qu'un seul US pour toutes les équipes.
Tu as
le droit à un deuxième.
Deux US,
voilà. Après, tu composes comme tu veux. Ouais. Et tu peux très bien partir avec 0 US et prendre que des bossman. Tu composes comme tu veux. Mais ça donne quand même plus de latitude, je trouve, au club, puisque le marché américain est quand même assez vaste.
Chose super, là, ce que peut être l'organigramme, d'un jeune coach
qui va prendre les rênes, qui n'a pas un grand passé, peut-être basket. Je voudrais pas lui manquer de respect. Ça se trouve, c'est un incroyable international U11 au Portugal, Linis. Je ne connais pas son CV, mais l'association avec quelqu'un qui connaît la réalité du terrain, du monde pro, joueur presque très frais encore, peut être très sympa. Moi, j'ai une question là. Il y a l'émergence de toi, Marc, au poste de manager. C'est quid de Loïc Cavelier, le président ? Parce qu'on a des nouvelles ?
On a des nouvelles. Oui, à chaque fois qu'on reçoit une prolongation d'arrêt, on a des nouvelles, oui, effectivement. La situation, elle est simple. La situation Loïc Cavelier, elle est simple. Aujourd'hui, il est en arrêt maladie. depuis le 18 août 2025. C'est-à-dire qu'on a fait une saison entière sans directeur général. Ne pensez pas que le fait d'avoir proposé le poste de manager général à Marc soit uniquement basé sur son absence. C'était un souhait de structuration du club qui, pour moi, était primordial. Ouais. Maintenant, le cas Loïc Cavelier, bah, effectivement, on va faire sans lui. On a fait sans lui une saison et on s'en sort pas trop mal. Donc on fera une deuxième saison et quand il daignera revenir ou quand ses arrêts seront finis, bah, il reviendra.
C'est presque ubuesque pour toi, Jean-Pascal, puisque tu l'as jamais croisé depuis tes présidents.
Si.
Si, ah, quand même.
On a échangé deux petits mois et puis voilà. Et puis voilà. Moi, bon, ceci dit, maintenant vous me connaissez, rien ne m'arrête, c'est pas le mot. Mais je vais répéter ce que je dis tout le temps, hein, où les gens travaillent pour ce club et avancent pour ce club, ou ouais, ils s'effaceront naturellement ou pas naturellement, tout simplement.
Pardon, merci.
Ça s'est fait naturellement, cette proposition de l'assistant coach, déjà dans l'après-carrière, parce que c'est quelque chose que je pense que tu voulais. Et ensuite, pourquoi Evreux, qu'est-ce qui t'a séduit dans ce projet vraiment,
Bah, c'est simple, hein. C'est Denis et Marc qui m'ont rappelé, qui m'ont proposé justement ce poste-là. Puis moi, bon, voilà, comme certains le savent, moi ça fait depuis un certain temps que je me prépare pour ce poste-là. J'ai pris le temps de passer mes diplômes, j'ai pris le temps de me préparer. Et ce sont les premiers qui m'ont appelé, tout simplement, qui m'ont offert ce poste-là. Donc bah, j'ai accepté directement, d'autant plus que j'étais venu la saison dernière pendant la pré-saison. Le courant est très bien passé. Et moi, voilà, je fonctionne beaucoup comme ça au feeling, et au final, je me suis dit, on va tenter l'aventure, allons-y. Quoi.
Ouais. Ouais. Mais en tout cas, tu te vois du coup débuter ici et ensuite devenir coach dans l'idéal, dans un futur plus ou moins proche, c'est un peu ça l'idée?
Oui, c'est l'objectif. Maintenant, je vais prendre le temps. Hein. C'est-à-dire, pour l'instant, je suis qu'assistant, je suis là pour soutenir Denis, et après, on verra où ça mène. Mais, petit à petit.
Okay. Ouais. T'as passé tes diplômes déjà?
Oui, j'ai passé le DE, DGEPS, voilà, et puis on va continuer à passer le reste des diplômes pour continuer à évoluer.
Alors, tu joues encore un peu ou pour le plaisir?
Non, enfin, j'ai fait mes derniers matchs cette semaine.
Pour le plaisir, tout ça, tu t'en profites encore un peu?
Ah oui, je m'entretiens toujours, toujours. Et puis le fait d'être assistant coach, dans la manière dont on va fonctionner, je vais toujours, c'est un peu sur le terrain où je vais toujours taper la balle, mais non, je ne joue plus en club.
Voilà. Christelle, donc tu vas avoir aussi un rôle sur l'équipe pro, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Tu as fréquenté beaucoup le club d'Orchy, là, tu viens de l'association d'Orchy. On a un gros bébé là-bas qu'on aimait beaucoup, qui s'appelle Joe Burton, tu connais, qui est quelqu'un qui est, je pense que là, qui fait l'unanimité, qui était deux fois MVP là-bas, je crois, d'ailleurs, avec Orchy.
Sur la saison. Deux fois MVP.
Qu'est-ce qu'il fait l'année prochaine, là, tu sais?
Alors là, je sais pas, j'ai aucune idée.
Et donc tu es déjà, tu auras un rôle donc, sur les espoirs, mais aussi un petit rôle. Comment tu t'envisages ce petit rôle, justement, au sein de l'équipe pro?
Voilà, la plus grande partie de mes missions, ça va être donc sur l'équipe espoir et sur centre de formation. Ensuite, moi, pour l'équipe pro, c'est pouvoir mettre mes compétences au service de l'équipe. Donc, ouais. Ça, il y a un coach, il y a un assistant. Et moi, c'est pour amener aussi le fait que, comme j'ai l'équipe espoir, les passerelles.
Passerelles avec les
pros. Donc, voilà. Je n'ai pas encore bien, comment dire, je dois parler avec le nouvel entraîneur pour bien savoir.
Vous êtes pas rencontré encore avec Guinness?
Si, j'ai déjà rencontré, mais comment dire, je dois l'avoir demain au téléphone.
D'accord.
Et discuter un peu de ça.
Là, Vinicius, il
est un peu occupé, ouais.
Il est avec les équipes jeunes portugaises, ouais.
Et c'est bien justement d'avoir ça, parce que ça rejoint un peu ce que la LM savait faire avant, c'est d'avoir un coach qui un coach de coach qui travaille beaucoup avec le centre de formation, qui vont peut-être essayer de refaire, alors je sais pas, c'est peut-être plus difficile qu'à une certaine époque, mais de refaire un vivier, sortir des joueurs.
C'est totalement l'idée que l'on a, c'est de recréer du lien entre le centre de formation, et pas seulement le centre de formation, avec l'asso aussi, avec nos U18, parce qu'on n'a plus de U15 nationaux, mais de créer un vrai lien depuis les U18 jusqu'au pro, justement. Et je pense que vous voyez ce qu'on est en train d'essayer de créer entre un retraité tout neuf, Christelle qui connaît parfaitement la formation, Dinis qui est très jeune. L'idée, c'est vraiment de travailler sur la jeunesse du club et de retravailler les bases qui ont fait ce club, tout simplement.
Ouais, même le staff, ça va être un des plus jeunes de l'île 2.
On va être, je pense aussi, le plus jeune staff.
C'est en expérience, oui, mais... Carl, il a quand même, si je dis que le 6, il a plus de 15 années professionnelles, il a joué en Italie, enfin, je veux dire, il a de la bouteille. Et Dinis, il fonctionne avec moi depuis 2 ans, mais c'est pareil, il a aussi beaucoup d'expérience, un bon réseau. Il connaît maintenant très bien le championnat de France.
Bien sûr.
Donc,
quid de la coach mentale? Je sais pas, pardon du raccourci du terme, hein, mais c'était ça.
On n'a pas, pour l'instant, je m'avance un peu, mais on n'a pas travaillé sur le sujet.
Vous ne pouvez pas passer de 2 personnes dans le staff à 17 non plus, quoi. Alors il y a un truc qui m'échapperait.
Non, on va avoir des problèmes financiers. Mais...
donc pas forcément d'accord.
Non, on est en train de les régler, donc non. Non, je pense qu'on réfléchit à comment. Attention, c'est pas péjoratif. Comment l'utiliser, en fait. Cette année, c'était surtout une expérience, puisque je crois qu'on est le seul club en France à avoir une coach ou un coach sur toute la saison.
Intégré
pleinement, hein, puisqu'elle a suivi l'équipe en déplacement. Enfin voilà. Peut-être qu'on aura une autre approche
plus ponctuelle, en fait,
plus ponctuelle, voilà. Peut-être la phase de préparation et après du ponctuel sur certains joueurs ou sur le groupe, mais ponctuellement. Mais on ne sait pas encore franchement ce qu'on va faire.
Colin, vous parlez. Justement, je vais rester là-dessus. Vous travaillez quand même pas mal en ce moment avec le club de l'UVB, le club professionnel d'Evreux, justement sur Colin qui va certainement aussi intégrer leur staff là-dessus. C'est une façon aussi de partager les charges, aussi, je suppose, pour vous de faire.
Alors, partager les charges, pas vraiment, parce que les charges seront les mêmes, mais que l'un et l'autre aient un meilleur revenu surtout.
Ah d'accord, donc
c'est pas vraiment un partage de charges, puisque d'accord. Ça nous coûtera globalement le même prix. D'accord. Par contre, l'intérêt, c'est qu'ils soient tous les deux au sein d'Evreux, et ce qui facilite pas mal de choses. Et puis connaître l'environnement hébroïcien, je pense que c'est pas mal aussi, qu'on soit coach ou préparateur, je pense que l'environnement de la salle, tout ça c'est important. Mais voilà, c'est surtout pour eux avoir des revenus qui soient globalement suffisants. Voilà.
J'ai compris, Simon avait dit non pour Colin.
Moi, j'ai entretien avec Colin à 18h, donc je sais pas là.
Mais au départ, lui, il repart pour une année.
Colin ?
Ouais.
Mais on se met d'accord.
On est d'accord sur le principe. Après, il y a des petites choses à caler. N'ayant pas calé le staff sportif globalement, voilà, c'était important pour nous aussi d'avoir l'avis de Dennis, de Karl ou Christelle par rapport à ça. Voilà, c'est un coach Un préparateur, c'est quelqu'un qui passe un bon paquet de temps avec, avec les coachs. Donc voilà, il y avait un intérêt à le faire patienter un petit peu. Mais l'idée, c'est de le conserver. Ouais. Ouais.
C'était pour savoir du coup quand est-ce que vous allez programmer la reprise. Ouais, 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 ouais. Et puis est-ce qu'il y a des matchs amicaux qui ont déjà été fixés pour la prépa?
Oui, on a un match amical le 19 août contre Val de Seine. Ce sera un match qui sera très certainement délocalisé mais dans notre département.
Okay. Comme il y a pu avoir à Verneuil par le passé.
Exactement. Parce qu'on a besoin de continuer
à fédérer aussi, c'est
important. Fédérer autour de nos clubs. C'est important, en étant le seul club professionnel de l'heure, c'est important de le faire. Ensuite, on aura le tournoi du Havre, le 5 et 6 septembre, avec donc du coup le Havre qui nous a invités, Champagne Basket, Caen et nous. Donc voilà aujourd'hui les trois matchs qui sont programmés et on continue de travailler sur la programmation et la préparation, sachant que les joueurs auront déjà des tests médicaux à valider avant de pouvoir commencer à s'entraîner. Donc la reprise va se situer entre le 4 et le 10 août. On est en train de caler ça pour l'instant, c'est pas encore fait.
Annonce de joueurs bientôt.
C'est dans les tuyaux, pas tout de suite. On va déjà finaliser Kezia Foreslo pour faire une annonce officielle, mais voilà. C'est quelque chose qu'on a dealé depuis très longtemps déjà. Et on travaille activement oui, pour finir notre base de JFL avant de s'attacher aux joueurs étrangers.
Toujours cette étape-là, d'accord.
On commence déjà par le JFL.
Qu'est-ce qu'il y a comme
important. Et après,
priorité, on va dire, dans les profils des recrues que vous souhaiteriez avoir par rapport à la saison passée, qu'est-ce que vous souhaiteriez améliorer
Avoir un petit peu plus d'expérience.
Ouais.
Déjà, dans le jeu et dans la pratique, c'est-à-dire avoir des mecs qui, si possible, ont déjà joué en Elite 2. Là, on essaie de finaliser l'arrivée d'un poste 5, backup, qui a déjà une expérience en Elite 2. Donc l'idée, c'est d'avoir un peu plus d'expérience que cette saison. En tout cas, sur la partie JFL. Et il est évident que sur les étrangers, on fera des coups. On ne pourra pas avoir que des étrangers d'expérience. Même si là aussi, on va essayer de cibler des joueurs qui ont déjà joué en Elite 2. Mais ça a un coût. Donc aujourd'hui, on regarde et on va aussi devoir être un petit peu patient. Ce coup descend légèrement, mais voilà, priorité les JFL, avoir des joueurs qui ont déjà la connaissance de ce championnat, qui est un championnat qui est quand même très particulier par rapport aux autres deuxième divisions, et ensuite on s'attachera sur les joueurs étrangers, donc ça peut être des joueurs étrangers qu'on soit déjà joué en Elite 2, ce serait vraiment idéal. Ça peut être des étrangers qui ont joué sur la division en dessous, la NMA, qui est une division quand même qui se rapproche beaucoup de l'Elite 2. Par le nombre d'étrangers, c'est quand même un beau championnat aussi, qui a une belle exposition. Donc voilà un petit peu. Et je pense qu'on aura peut-être aussi pas le choix de faire un pari ou deux. Mais c'est tout. On s'arrêtera à un pari ou deux.
Est-ce que y a une volonté d'aller chercher des joueurs qui sont plus adroit, on va dire, en termes de réussite au tir.
Oui, bien sûr. Après,
la plus mauvaise équipe au lancer franc, l'une des plus mauvaises en tir extérieur.
Sur les lancers francs, je suis d'accord. Après, sur le tir extérieur, on n'a pas été si mauvais que ça sur le pourcentage à 3 points. Pourcentage à 3 points, il y a 2 ans, oui, on était un petit peu dans les derniers de la classe.
C'était les gens qui mettaient moins de panne à 3 points.
C'est parce qu'on avait, nous, décidé d'acter notre jeu beaucoup à l'intérieur, que ce soit Yvan ou Max. Mais également avec un jeu basé sur beaucoup de pénétration. Mais oui, bien sûr, on va chercher aussi des références sur le tir à 3 points, mais c'est aussi une compétence qui est chère, qui est très chère dans le championnat, mais bien entendu, oui, c'est ce qu'on va cibler. Ouais.
Un espoir référencé de Betclic. On a abandonné en possibilité de recrutement. Comme quand on a connu... comment il s'appelait qui était très bon, qui était capitaine de la JDA, qui a fait 2 ans chez nous. J'ai honte, là, qui a fait une grave blessure et qui revient en fin d'année dernière. Bref, un joueur confirmé, un gros joueur d'Espoir Betclic-Elite, ce n'est pas des profils qui,
si, si,
qui reviennent.
On en a un ou deux qui est ciblé, mais aujourd'hui ils ont l'appel de la NCA.
Ah oui,
ils ont ça. Voilà, ils ont aussi quelques projets parfois en Europe. Donc on n'est pas forcément nous une cible
on avait un
pour ces joueurs-là.
Et les joueurs étrangers, je dirais principaux. Sur des postes définis,
oui, on veut deux arrières.
Deux arrières.
Un poste de meneur et un poste de deux arrières.
Dimitri.
Parce qu'avec Dimitri, on souhaite vraiment baser avoir trois joueurs sur la création, donc un joueur JFL et deux joueurs étrangers. Donc le joueur JFL, on est, comme je vous le disais tout à l'heure, en train de discuter avec Ilian Mangala pour pouvoir le conserver. Et ensuite on aura un étranger sur le poste 4. Est-ce que ce sera un 4-3, est-ce que ce sera un 4-5, est-ce que ce sera vraiment un stretch 4 et un autre étranger sur poste 5. Avec la liberté de se dire, voilà, les deux Américains, on peut en mettre un en dessous, un extérieur. On verra ce que le marché va nous offrir par
ça. C'est intéressant justement, ton réseau maintenant établi, celui de Karl, celui d'Inise aussi avec le sud de l'Europe. Et pardon, sûrement celui aussi de Christelle. Ça ouvre le champ des possibilités aussi, ce réseau.
Oui, bien sûr, mais ça montre aussi qu'on est capable. Tu vois, on a eu Aaron Levariti, personne n'en voulait en Pro B il y a deux ans. Aujourd'hui, il vient de signer deux ans en Pro A avec Juan. Karl regarde beaucoup de matchs, Christelle a son réseau, Tinis aussi. On regarde énormément de joueurs, mais on ne veut pas se tromper. Et voilà, et je pense que ça va être intéressant ouais, de trouver... ces joueurs étrangers qui vont venir non pas pour un salaire mais pour une exposition puisque voilà, on sait qu'après c'est difficile de les garder une fois qu'ils sont s'ils font une bonne saison collective et forcément une bonne saison individuelle. Tu sais que derrière voilà, Maxime Karen qui est un joueur français il fait x2 sur son salaire, presque x2,5. Aujourd'hui c'est la réalité.
Et puis pour revenir à nos finances, on n'a pas le droit de se tromper nous. Il faut qu'on soit bon dès le début, on n'a pas le droit de se...
L'équipementier, c'est le même au fait ? Ou on change ? J'avais pas eu entendu ça, moi ?
Non.
Hein ? Ça s'armit toujours ?
Ce sera un fabricant français.
Ah oui, un changement, voilà, il me semblait bien.
Oui, pardon, excusez-moi.
Okay.
Oui. Sous contrat jusqu'au 30 juin, donc.
D'accord. Voilà. Ouais, mais, on n'a pas le droit de dire encore le nom, du coup.
Okay. Non.
Très bien.
Pour toi aussi, au niveau du centre de formation, il va falloir aller chercher des jeunes joueurs un petit peu partout en France, parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de départs qui ont été annoncés sur les réseaux sociaux de jeunes joueurs du centre de formation. Ça va être aussi pour toi un petit chantier à venir ou...
Bah, pas tant que ça. Pas tant que ça, parce que autant qu'il y a des joueurs bah, qui sortent du centre aussi, parce que par rapport à l'âge, tout simplement, on fait rentrer aussi 3 U18 du coup, dans l'équipe. Espoir et donc la possibilité d'avoir deux joueurs supplémentaires, que pas tant que ça quoi.
Non, tu viens d'arriver, tu connais peut-être pas tous les noms, mais est-ce que tu les as en mémoire?
Ouais.
Il y a le petit Noah, il y a qui?
Ouais, les U18 qui montent.
Oui.
Ouais, Noah Métivier,
okay.
Alex Lezouquet.
Super.
Et Mathieu Mondésir.
D'accord.
Donc voilà, c'est les trois U18.
J'ai été voir quelques matchs. Ok. Ouais.
Donc ça va être l'objectif pour la saison espoir à venir, ça va être surtout, on ne parlait pas forcément trop de résultats buts, mais surtout de les faire évoluer, c'est tout ça la démarche, et, en tout cas la pédagogie ouais, en tant que...
C'est ça, les faire évoluer. Comme je dis, moi, ma philosophie, c'est que l'équipe quand même, une équipe vraiment importante, c'est l'équipe U18. Donc le but, c'est dans l'avenir de ne pas avoir trop à recruter en espoir, quoi. Donc avoir comme ces trois joueurs qui montent en espoir, bah avoir un fer de lance, se servir d'équipe U18 comme une équipe fer de lance pour sur les espoirs, bah recruter peut-être des profils qui nécessiteraient, qui seront importants pour l'équipe professionnelle, plus dans les profils comme ça. Quoi. Donc l'équipe espoir, pour moi, c'est pas une équipe dans laquelle on doit faire beaucoup de recrutement. Quoi, parce qu'on a l'équipe U18 voilà, pour ça. Donc, on essaye un peu d'être dans cette optique-là, donc il va y avoir pas mal de rentrées du coup, sur l'équipe U18 pour être dans cette philosophie-là.
Ouais, vous allez vraiment rapprocher un peu l'assaut, enfin, vous allez vraiment travailler avec l'assaut Enfin, ça, il y a un moment, je sais que c'était assez compliqué. Donc, vous avez déjà commencé à en passer déjà.
Ouais, l'idée, c'est vraiment d'avoir une continuité entre, entre l'asso et Club Pro, et bien sûr. Bien sûr.
Il manque Antoine.
Comment ?
Je dis, il manque Antoine. Voilà. Autour de la table, nous chouette.
Ouais. Qui reste en place, hein, bien évidemment.
Et Bruno Chédiron, il reste encore un peu, je crois. Ouais. Parce qu'il devait arrêter, mais je crois que...
Non, il reste. Il reste encore.
Ok.
Bon, bah, merci.
C'est bon. C'est bon pour ça, une petite photo.
Plaisir.
Plaisir.
Merci.